La main à la pâte, un cycle d'émissions proposées par les réseaux d'Impact Centre et Impact 37. Je suis Anouk, nouvelle voix de la main à la pâte et salariée d'Impact Centre. Dans chaque émission, je vous emmène à la rencontre d'associations, d'élus ou de citoyennes et de citoyens qui mettent la main à la pâte pour rendre le monde agricole plus durable. Bonjour à toutes et à tous. La main à la pâte est aujourd'hui dans le Loir-et-Cher pour parler de justice alimentaire. Les consommateurs sont de plus en plus vigilants au contenu de leurs assiettes. Ils veulent manger mieux et cuisiner des produits frais de qualité. Sauf que les produits frais de qualité, ce n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Certains citoyens dans le besoin sont des habitués des banques alimentaires et doivent se contenter des invendus des magasins de grande distribution. Ces derniers font face à la précarité alimentaire. C'est tout l'enjeu du sujet du jour. Bonjour à toutes et à tous, la main à la pâte est aujourd'hui avec Nicolas Rogelet, élu référent du projet alimentaire territorial au syndicat mixte Pays des Châteaux, pour parler de la justice alimentaire.
Bonjour.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter, expliquer ton lien avec le sujet du jour, la justice alimentaire?
Donc je m'appelle Nicolas Rogelet, je suis élu en charge du projet alimentaire territorial, comme tu viens de le dire. Le projet alimentaire territorial, le but, c'est de travailler à une échelle territoriale pour relocaliser le système alimentaire dans les territoires. Aujourd'hui, on a un système alimentaire en France qui a été longtemps tourné vers l'idée d'aller vers nourrir le monde, avoir une agriculture forte en France. Les projets alimentaires territoriaux, c'est penser l'alimentation sous quelque chose de plus global que juste l'agriculture. C'est vraiment le lien à bout de chaîne, aux consommateurs, aux mangeurs, le lien à la justice alimentaire, la question du paysage, la question de la préservation de l'environnement, tout ce qui va tourner autour de l'alimentation et pas seulement l'agriculture. Et c'est en ça que j'ai un lien avec le sujet d'aujourd'hui. Dans le projet alimentaire territorial, on va essayer de faire travailler tous les acteurs de l'alimentation pour recréer un système alimentaire vertueux. Et dans ces acteurs de l'alimentation, eh bien, il y a tous ceux qui vont prendre l'alimentation sous sa dimension sociale, sous sa dimension d'accessibilité pour toutes et tous.
Est-ce que tu peux nous définir ce qu'est la justice alimentaire?
La justice alimentaire, sous l'angle tel qu'il est défini par le projet alimentaire territorial, c'est la capacité qu'on va pouvoir donner à tous les citoyens d'accéder à une alimentation de qualité sans condition de revenu. C'est presque faire du droit à s'alimenter correctement à une question de droit fondamental. Finalement, pour vivre heureux, il faut un logement, il faut un sentiment de sécurité et il faut pouvoir avoir accès à l'alimentation. L'alimentation, c'est l'eau, une eau de qualité, et l'ensemble des produits. Voilà. Et donc finalement, ça fait que cette alimentation, c'est presque un droit fondamental. Et donc c'est comment on va faire en sorte que tout le monde, quelles que soient ses conditions de revenus, ait le droit de manger, mais pas seulement le droit de manger, et le droit de manger bien. Parce qu'on voit bien que souvent, c'est les plus pauvres qui vont manger les plus mal. Avoir accès à une alimentation de moins bonne qualité, et derrière, ça crée d'autres problématiques, par exemple de santé. Finalement, quand on est plus pauvre, on a moins le droit de manger bien, et donc on a plus de problèmes de santé, par exemple. Qui vont en suivre.
Quelles sont les causes de l'insécurité alimentaire en région Centre-Val de Loire et plus précisément dans le département du Loir-et-Cher?
Les inégalités de revenus, majoritairement. Ces dernières années, on a eu une explosion en France. On voit très bien qu'il y a eu une augmentation des inégalités de revenus entre les plus pauvres et les plus riches. On a moins de classes moyennes, plus de gens très riches et plus de gens très pauvres. Et en fait, en Loir-et-Cher, on le ressent aussi. C'est-à-dire que la grande pauvreté augmente. On a de plus en plus de bénéficiaires de ce qu'on appelle l'aide alimentaire. Donc l'aide alimentaire, en général, les gens connaissent les Restos du Cœur ou le Secours Populaire. C'est toutes ces associations qui vont travailler pour pouvoir faire en sorte que les gens qui n'ont pas accès à l'alimentation puissent, par des systèmes de dons, avoir un minimum pour vivre ou survivre. Et donc en Loir-et-Cher, on a une explosion du nombre de bénéficiaires de l'aide alimentaire et aussi une augmentation du spectre des gens qui sont touchés par ces problématiques-là. C'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus de jeunes qui vont devoir aller à l'aide alimentaire et aussi de plus en plus de personnes âgées. C'est-à-dire que Voilà, il y a aussi un âge qui a grandi. Mais il faut savoir que Blois, par exemple, c'est la ville la plus pauvre en termes de revenus par habitant de région Centre-Val-de-Loire. C'est-à-dire qu'on a énormément d'habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc c'est une vraie question centrale que ce droit à l'alimentation à Blois et en Loire-et-Cher. Voilà, en Loire-et-Cher, il y a aussi toute la question de la ruralité, souvent, pour l'accès au droit, il y a la question du déplacement, de la capacité à se déplacer pour pouvoir accéder à ces droits qui est compliqué quand on habite en ruralité. Et c'est aussi le cas pour l'accès à l'alimentation. C'est-à-dire que si je ne peux pas me déplacer, je ne peux pas aller à l'aide alimentaire et donc je n'ai pas accès au minimum pour vivre.
De manière plus large, quel est ton rôle en tant qu'élu face aux enjeux d'insécurité alimentaire sur le territoire?
L'aide alimentaire, c'est plutôt une compétence du département. C'est les départements donc les élus du département, qui ont en général la plupart des questions sociales dans leur giron. Donc moi, mon rôle, ça va plus être sous l'angle de l'alimentation à travers le projet alimentaire territorial. Le projet alimentaire territorial, tel qu'on l'a construit au Pays des Châteaux, ça a voulu être quelque chose qui justement pense l'alimentation, comme je le disais, de manière globale dans tout son spectre et le pense avec les acteurs. C'est-à-dire que j'ai pris ma position d'élu, non pas comme quelqu'un qui va dire voilà quelle est la solution, on va faire comme ça, mais plutôt quelqu'un qui va faciliter la capacité d'agir des acteurs qui s'impliquent. C'est-à-dire qu'en gros, on a créé ce que s'appelle un conseil local de l'alimentation, qui est un lieu où on va rassembler l'ensemble des acteurs de l'alimentation du territoire et ils vont travailler à quelles sont pour eux les choses à mettre en place pour améliorer le système alimentaire et notamment la question de la justice alimentaire. Et donc, disons que j'ai participé à rendre possible ces temps de concertation en les finançant, en apportant de l'ingénierie, c'est-à-dire on finance une salariée qui va organiser ses temps de travail, en faire le compte rendu, faire en sorte que les acteurs se rencontrent. Et c'est comme ça, par exemple, que le projet Parmentier, qui est un projet, pourrez-vous développer, qui travaille sur l'accès à une alimentation de qualité pour toutes et tous, a vu le jour. C'est-à-dire que différents acteurs se sont rencontrés dans le cadre de ces réunions et ont dit aujourd'hui, un des sujets à Blois et sur le Pays des Châteaux, c'est la question de l'aide alimentaire qui n'arrive plus à répondre à ses besoins, qui est un système qui commence à voir ses limites, et parallèlement l'explosion du nombre de bénéficiaires, et qui se posait la question de comment répondre à ces problématiques-là, et notamment la problématique de l'accès à des produits de qualité pour les gens les plus pauvres, c'est-à-dire que dans l'aide alimentaire, on a souvent des produits de mauvaise qualité, c'est-à-dire on va avoir les surplus de la grande distribution, donc vous allez avoir facilement du foie gras, leader price, qui n'aura pas été vendu, mais par contre vous n'arriverez pas à avoir des tomates, des patates. Des carottes. Vous voyez, donc on arrive à avoir des boîtes, on arrive à avoir des produits de mauvaise qualité ou des fruits prêts à pourrir, mais on arrive à une grosse difficulté à avoir des produits frais. Et donc on est parti sur cette difficulté, par exemple, pour la majorité des citoyens bénéficiaires de l'aide alimentaire, à avoir des produits frais de qualité, pour essayer de travailler ensemble à comment le résoudre en travaillant en partenariat avec les gens de l'aide alimentaire. Des surfaces de distribution, donc là c'est ce que je disais, les déplacements, comment on arrive à distribuer ça, et donc il y a souvent des gros enjeux logistiques sur ces questions-là, et puis les producteurs, et comment on fait en sorte aussi que ça bénéficie au producteur qui doit pouvoir vivre correctement de son métier, même si il met à disposition des produits pour les gens les plus pauvres, il faut malgré tout qu'il ait un revenu décent à la fin et que chaque acteur s'y retrouve dans ce système.
Tu nous en parlais tout à l'heure, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le projet Parmentier? Quel est ton rôle dans ce projet et quel est l'historique de ce projet?
Donc moi, on va dire que je vais avoir un rôle de facilitateur et de portage. Je vais essayer d'aller convaincre des partenaires, d'aller aider à chercher des financements et d'aller participer à rendre possible une initiative en l'expliquant, en essayant d'aller trouver des moyens, en facilitant le lien entre des acteurs qui ont parfois peuvent avoir du mal à se parler ou autre. En gros, je vais avoir une espèce de... Ben, quand on est élu, on porte un idéal de société, on essaie de faire en sorte qu'il l'advienne. Et donc, on va dire que c'est mon rôle de mettre les gens en lien. Et donc, Parmentier, donc ça part de les gens de l'aide alimentaire qui nous font part d'une critique du système de l'aide alimentaire. L'aide alimentaire, c'est des associations qui récupèrent les surplus des petites et moyennes et grandes surfaces. Les petites, moyennes et grandes surfaces, en donnant leur surplus à l'aide alimentaire, vont défiscaliser leur surplus. Donc, il y a plusieurs limites à ça. C'est que, un, l'aide alimentaire se retrouve à être la poubelle des grandes surfaces. On va leur donner tout ce que les grandes surfaces n'ont pas réussi à vendre et n'arrivent pas à vendre. Et donc, c'est eux qui vont devoir se retrouver à faire le tri à leur place entre ce qui vaut quelque chose, ce qui vaut rien, mettre à la poubelle, etc. Ça demande beaucoup de temps. Et à qui ça va rapporter de l'argent ? C'est la grande distribution. Et en plus, ça les incite à continuer un système de surproduction, finalement, puisqu'ils n'ont pas géré la surproduction, qu'ils s'en débarrassent auprès de l'aide alimentaire. Ça n'aide pas à produire juste ce dont on a besoin, donc un système presque de gaspillage. Et en bout de chaîne, les bénéficiaires, qui sont les gens les plus pauvres, eux, ils vont récupérer des produits de mauvaise qualité. Et à l'autre bout de la chaîne, les producteurs, eux, on va les pousser à produire toujours plus pour toujours moins cher, en disant oui, mais le consommateur veut acheter de moins en moins cher en grande surface, et eux, ils ont du mal à en vivre. Donc la question, c'était comment on renverse ce système-là. Et donc ça, normalement, c'est la question de la sécurité sociale de l'alimentation. Sauf que nous, on ne l'a pas pris sous l'angle « on va créer une sécurité sociale de l'alimentation », mais plus on va partir du bas de l'échelle. L'aide alimentaire existe, on s'appuie sur ces acteurs-là. Ils disent qu'ils ont du mal à avoir des produits frais et de qualité, donc des fruits, des légumes, des œufs, du lait, de la crèmerie ou de la viande. Donc pour l'instant, on s'est dit, on va déjà faire légumes et légumes secs parce qu'en fait, il n'y a pas de chaîne de froid en logistique. Donc déjà, comment on arrive à alimenter en fruits et légumes secs, l'aide alimentaire pour répondre à ce besoin de donner des produits de qualité aux bénéficiaires. Les acteurs du projet alimentaire territorial, on s'est dit que le meilleur label de qualité, c'était la bio, parce que c'est l'assurance de produits sans intrants chimiques, sans pesticides qui créent des problèmes de santé, donc bio, et puis local pour avoir un système qui bénéficie à des acteurs du territoire proche. Donc l'aide alimentaire, en fait, avec les dons des gens, plutôt que d'acheter en grande surface, va acheter à des producteurs locaux des produits bio et locaux frais, et la collectivité va participer à l'achat. En gros, pour 1 euro acheté, par exemple, le CIS, donc c'est l'action sociale intercommunale, va donner 1 euro, va participer à l'achat pour faire baisser le prix du produit pour l'aide alimentaire et pour le bénéficiaire. Après, le truc, c'est qu'une fois qu'on l'a acheté, il faut déjà se dire à quel prix on l'achète pour que tout le monde s'y retrouve, pour que ça ne soit pas trop cher pour l'aide alimentaire, mais que les producteurs s'y retrouvent aussi. Et donc là, on a pris la Mercurial Bio, c'est-à-dire, gros, ils nous vendent au prix de vente de gros en région centre. Donc, on bénéficie de prix de gros, mais le producteur, il sait que voilà, il s'y retrouve. On a fait du lien entre les différents systèmes d'aide alimentaire pour que chacun rentre dans un tableur et se mette d'accord sur ses besoins en quantité sur différents produits en fonction des besoins. On a recréé du lien entre des associations autour d'un projet commun. Et puis, on permet aux producteurs de pouvoir faire de la planification. C'est-à-dire qu'il sait 1 an en avance qu'il va avoir des débouchés par l'aide alimentaire. Et donc, lui, il peut mettre en culture dans ses champs en sachant qu'il a un débouché. Donc là aussi, ça sécurise sa production et des débouchés. Et donc ça, c'est ce qui gagne le producteur. L'aide alimentaire, ce qu'elle gagne, c'est qu'elle arrive à avoir des prix de gros pour une alimentation de qualité et pour un prix très raisonnable. Mais entre les deux, entre ce producteur qui vend un certain prix et l'aide alimentaire qui a réussi à se mettre d'accord sur ses quantités, etc., il faut pouvoir acheminer les produits depuis les agriculteurs qui sont dispatchés dans le territoire jusqu'à des locaux d'aide alimentaire qui chacun vont peut-être prendre je sais pas moi, 30 kilos de ci, 50 kilos de ça, et souvent ça vaut pas le coup pour un producteur d'aller faire sa distribution. Et donc entre les deux, c'est Les Jardins de Cocagne, qui est la plus grosse entreprise d'insertion par l'emploi du Loir-et-Cher et qui produit des paniers bio et locaux, qui connaît les différents producteurs, qui gère la logistique, c'est-à-dire ils font le lien avec tous les producteurs, ils récupèrent tout ça dans leurs locaux, ils conditionnent et ils distribuent aux différentes associations alimentaires. Et donc c'est ça le projet Parmentier, c'est mettre en commun des producteurs, des associations d'aide alimentaire, plus la banque alimentaire et quelqu'un qui va gérer la logistique et qui a une structure d'insertion par l'emploi qui est Biosolidaire, l'association des Jardins de Cocagne de Blois. Voilà, on commence à se rapprocher d'un système de sécurité sociale de l'alimentation, mais ça n'en est pas tout à fait un. La sécurité sociale de l'alimentation, l'idée générale, c'est que plutôt que l'État finance de la défiscalisation aux grandes entreprises qui se débarrassent de leur surplus, il finance à chacun un droit à acheter de l'alimentation de qualité. Imaginons sur votre carte vitale, vous avez chacun 150 euros pour acheter de la nourriture chaque mois, qui est labellisée comme étant de qualité. Et de la même manière que la sécurité sociale en termes de santé, à l'origine en France, c'était des groupes locaux qui définissaient les conditions d'accès. Et bien là, c'est dans la sécurité sociale de l'alimentation, c'est des groupes locaux qui vont définir qu'est-ce que c'est que la qualité, quels produits on conventionne, quel producteur on va conventionner, où vous pouvez utiliser cet argent qu'on vous a donné sur votre carte vitale pour acheter des produits qui vont participer à ce que vous ayez des produits de qualité et à aider une économie locale et relocalisée. Parce que le but premier du projet alimentaire territorial, c'est de relocaliser l'économie agricole. Donc là, on n'est pas vraiment à ce système-là, mais on s'en rapproche dans le sens où on voit quand même, on obtient les mêmes objectifs. L'accès à une alimentation de qualité pour tous, le fait que les retombées économiques soient pour les producteurs du territoire. Mais il n'y a pas cette question d'argent qui va tomber sur votre compte. Et donc peut-être que c'est l'évolution à venir de Parmentier, c'est-à-dire qu'en fait, Parmentier aujourd'hui, malgré tout, du coup, la question qui se pose, c'est les financements, ces produits. Comment l'industrie alimentaire fait pour acheter ces produits? Elle est en partie aidée par le CIAS, mais pas tant que ça, et par le département, mais pas tant que ça, et donc il faudrait stabiliser le modèle. Et pour stabiliser le modèle, peut-être que c'est les chèques alimentaires qui sont distribués par le CIAS, peut-être que c'est des chèques alimentaires qui vous permettent d'accéder à des produits de Parmentier. Parce qu'en fait, dans la justice alimentaire, une autre notion qui est fondamentale, c'est la question de la dignité. Quand on vous donne des produits de manière gratuite, ça crée un sentiment de redevabilité et non pas de droit fondamental. C'est la différence entre la solidarité et l'aumône, vous voyez. Et ça crée quelque chose, il y a des gens qui pourraient bénéficier de l'aide alimentaire et qui ne vont pas y aller, parce qu'en termes de dignité, c'est difficile. D'aller là-bas, on se sent déclassé socialement. Alors que si c'est avec votre argent que vous achetez les produits, eh bien, déjà, vous avez le choix. C'est-à-dire que ce n'est pas d'autres qui vont penser pour vous ce qui est bien ou mauvais pour vous. C'est vous qui allez acheter vos produits. Ce qui est intéressant, c'est qu'une des associations qui a été les plus actives dans ce système-là, c'est l'association La Passerelle, qui est une épicerie sociale et solidaire à Blois, qui est portée par Martine Joly, qui est aussi présidente de Parmentier, parce que dans tout ce système-là, il y a aussi la question de la dignité humaine qui doit être au cœur.
La main à la pâte, un cycle d'émissions proposées par les réseaux d'Impact Centre et d'Impact 37. Tu parlais tout à l'heure du sujet de la sécurité sociale de l'alimentation. Il y a des initiatives qui se font un peu partout en France à ce sujet. Est-ce que vous avez des remontées sur ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas ? Est-ce que c'est un projet que vous souhaiteriez mettre en place sur le territoire du Pays des Châteaux ?
Donc moi, je suis élu écologiste et donc j'ai une clouette SAP avec mes petits copains élus écologistes où on échange sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc en fait, Alice Van Roy qui porte ça à Tours ou Marie Massard qui porte ça à Montpellier, en fait, on se retrouve régulièrement pour échanger entre ce qui marche, ce qui ne marche pas et tout ça. Et donc, il y a des tests dans d'autres villes qui ont du mal à aboutir, mais expérimentent une manière de faire vraiment par la sécurité sociale de l'alimentation. Moi, j'essaye une autre manière de faire en m'appuyant sur les acteurs locaux. Et je pense qu'on va rentrer en période de municipale, mais je pense qu'il faut qu'on aille vers une sécurité sociale de l'alimentation et qu'on l'expérimente. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que dans les autres villes, c'est en gros un portage politique des élus qui ont dit on va expérimenter ça et qui essayent de créer une dynamique autour en créant un tirage au sort de citoyens qui vont déterminer c'est quoi les conditions pour pouvoir y accéder, etc., et qui vont injecter de l'argent public. Et nous, c'était beaucoup plus porté par les acteurs de l'aide alimentaire et les agriculteurs qui font émerger un système qui répond à un besoin et qui petit à petit va évoluer vers une sécurité sociale d'alimentation et une expérimentation, je pense. Et j'ai envie de rester là-dedans, c'est-à-dire je voudrais expérimenter une sécurité sociale d'alimentation, mais que ce ne soit pas moi qui dise comment il faut faire, mais plutôt que j'arrive à obtenir l'argent et le budget pour l'expérimenter et que ce soit l'association Parmentier qui nous dise de quelle manière ils veulent qu'on expérimente et qu'on essaie de mettre en œuvre. Parce que je pense qu'en fait, c'est la multiplication des initiatives qui chacune se fait à sa manière selon les singularités d'un territoire qui fait qu'à la fin, on trouve les bonnes façons de faire. Et je pense qu'il ne faut pas que j'essaye de copier la manière de faire des autres, que j'aille regarder ce qui marche et ce qui ne marche pas, mais qu'on continue de faire à notre façon parce que plus il y aura d'initiatives diverses et multiples, et plus on trouvera le juste modèle.
Dans ce projet Parmentier, quels sont les acteurs et est-ce que vous en cherchez d'autres ?
Alors les acteurs, ça va être... Donc on va avoir plusieurs collèges. On a un collège des producteurs. Donc dans le collège des producteurs, on va avoir des fermes. Par exemple, la ferme du Chablan qui fait de la farine, la ferme des Quatre-Vents qui va faire des lentilles, les jardins de Cocagne qui ont produit une partie des légumes mais aussi des ESAT qui produisent une partie des légumes. On a des producteurs de fruits qui viennent eux d'un peu plus loin parce qu'on manque de producteurs de fruits bio sur le Loir-et-Cher. Et puis dans ce vers quoi on veut tendre, ça serait d'aller chercher des œufs par exemple. Et puis à terme, j'aimerais bien quand même qu'on arrive à travailler sur la chaîne de froid et les produits frais, mais ça c'est vraiment complexe. Donc ça c'est le collège des producteurs. On va avoir Cocagne qui a un lien un peu spécifique parce que c'est un peu le logisticien. Et puis après, on a un collège de l'aide alimentaire dans lequel on va avoir la banque alimentaire, l'association de la passerelle, les restos du cœur qui sont partenaires du projet mais qui ne siègent pas au CA parce qu'en fait ils ont des statuts particuliers. Historiquement, les Restos du Cœur avec Coluche, etc., ils ne voulaient rien avoir à faire avec le politique et donc ils ont dit on rentre dans aucune association, on adhère à aucune association, on veut une indépendance totale. Mais pour autant, en fait, ils sont intéressés par le projet. Et donc, bien que dans leur statut, ils ne puissent pas adhérer à une autre association, on les invite à tous les CA et on arrive à travailler. Voilà. Même si, on va dire qu'administrativement, ils ne sont pas dedans, mais humainement, ils sont dedans. Sinon, on a eu le Secours catholique qui rentrait, qui est ressorti, qui re-rentre. Voilà, il y a de l'humain dans les assos, quoi. C'est normal que ça évolue. Et finalement, l'évolution aujourd'hui, c'est plutôt sur. On a créé un système autour du Blésois, au sens large, Pays des Châteaux, c'est les trois intercommunalités autour de Blois. Donc en gros, ça va de Chambord à Chaumont-sur-Loire, plus toute une partie de la Beauce avec Blois au centre. Donc ça, c'est ce grand territoire qui fait un tiers du Loir-et-Cher. Et donc, c'est comment on l'étend au reste du Loir-et-Cher. Et donc, on essaie de travailler avec Vendôme, qui ont aussi des problèmes d'aide alimentaire. Donc là, on travaille sur comment on peut aider Vendôme. On s'agrandit vers Vendôme en essayant de les faire bénéficier du système, tout en essayant de jauger sur comment on va à la bonne vitesse, parce qu'on ne veut pas non plus que ce soit des produits du Blésois qui aillent à Vendôme. Il faut aussi qu'on arrive à recréer le même système sur le Vendômois pour que ce soit des producteurs autour de Vendôme qui puissent faire bénéficier du système parmentier autour de Vendôme. Donc ça, c'est un projet en cours. Et puis après, on a un dernier collège, et bien c'est le collège des élus et des pouvoirs publics, où on va avoir l'État, où on va avoir donc la DDT, les services décentralisés de l'État, où on va avoir le département, où on va avoir l'agglomération et l'action sociale, et puis on va avoir le Pays des Châteaux et le projet alimentaire territorial. Ça, c'est, on va dire, les partenaires institutionnels qui participent à financer le projet, et c'est aussi un endroit où ils essayent de s'entendre pour avoir des objectifs politiques communs, parce que chacun a ses compétences, mais si on arrive à porter ensemble un même projet, ça lui donne beaucoup plus de force, quoi. Donc ça, c'est les acteurs. Peut-être aussi, je ne l'ai pas dit, mais ça, c'est donner accès à l'alimentation, mais comme on donne des produits bruts aux gens, il y a toute une dimension aussi sur la sensibilisation à ces produits-là. Il y a aussi toute une éducation au goût, parce qu'en fait, on a des cultures différentes en termes d'alimentation, et donc apprendre à cuisiner ces produits-là, c'est intéressant, mais. Et donc ça, Cocagne a aussi un rôle là-dedans sur l'éducation au goût, l'alimentation, etc., qui est assez intéressant et qu'on porte avec le CIAS et qu'on a fait rentrer dans le système Parmentier. Et puis, on a aussi des groupements d'achat, et notamment, on avait un groupement d'achat avec une entreprise qui s'appelle Yaka, c'est issu de Territoires zéro chômeur de longue durée. Donc, en gros, c'est comme. On a des entreprises qui essayent de faire de la réinsertion par l'emploi. Et dans ces entreprises qui font de la réinsertion par l'emploi, où on a des travailleurs pauvres, ben, on a fait des groupements d'achat pour qu'ils puissent avoir accès aux produits de Parmentier, aux coûts de Parmentier.
Si les auditrices et auditeurs souhaitent avoir plus d'informations au sujet de la justice alimentaire et peut-être même plus précisément au sujet du projet Parmentier, quelles ressources tu leur conseilles?
Donc, il y a plusieurs ressources. La première et la plus simple, c'est sans doute le site internet pour avoir toutes les infos, qui s'appelle parmentier-justice-alimentaire.fr, et où vous aurez tout le principe du système de Parmentier. Les autres sites, ça va être le site des projets alimentaires territoriaux de Centre-Val-de-Loire, pat-centre-val-de-loire.fr, ou celui du Pays des Châteaux qui a porté ce projet. Donc, ça, c'est un peu pour le lien entre le projet alimentaire territorial et Parmentier. Quelles ressources? Sinon, si vous voulez apprendre à mieux connaître ce qu'est la sécurité sociale de l'alimentation, il y a un tout petit livre qui s'appelle Encore des patates pour une sécurité sociale de l'alimentation. Il y a un très bon film aussi qui est sorti il y a quelques années, de la part des autres, qui explique très bien tout ce système de pourquoi l'aide alimentaire atteint ses limites et à la fois les questions de justice alimentaire, mais aussi pourquoi il faut réformer la justice alimentaire à travers des témoignages d'agriculteurs, de bénéficiaires. Il est court, il doit faire 35 minutes, il se regarde très bien et c'est très parlant, donc je vous le conseille.
Nous arrivons à la fin de cet échange. Y a-t-il un point particulier que nous n'avons pas forcément évoqué et qui te semble important d'ajouter?
Oui, ce qui me semble important d'ajouter, c'est que souvent dans ces types de projets-là, donc là je vous explique techniquement comment ça marche, etc. Et en fait, ça repose quand même beaucoup sur l'énergie de gens qui vont donner du temps bénévole pour rendre les choses possibles. Il y a une personne qui a donné énormément de son énergie et de son temps bénévole pour que ce soit possible, c'est Martine Joly. Donc je pense qu'elle mérite d'être citée ici parce que je pense que sans Martine Joly, ça n'aurait pas été possible. Et puis tu m'as demandé à quoi je sers en tant que politique. En fait, moi j'ai servi surtout à financer de l'ingénierie, c'est-à-dire du temps humain pour coordonner les gens entre eux. Mais on a beau financer ce temps humain, si les humains qui sont derrière et qu'on salarie n'ont pas l'envie et n'ont pas la motivation, ça ne se fait pas. Et en fait, il y a eu des salariés qui ont été extraordinaires et qui ont vraiment cru très fort en ce projet. Je voudrais les citer. C'est Christine Péritor au CIAS qui a été aussi à l'origine de l'initiative. Un grand merci à Camille Chauvet qui a été la première animatrice du projet alimentaire territorial du Pays des Châteaux et qui a porté ce projet à bras-le-corps très fort. Donc voilà. Et puis après, ça a été Oriane Marcadet qui a pris la relève et qui y donne encore aujourd'hui beaucoup d'énergie. Et donc voilà, c'est important pour moi de les citer. Et aujourd'hui, ben, grâce à tout ce travail, l'association Parmentier arrive à avoir un salarié pour l'animer. Et donc c'est Camille de Becker. Et donc voilà, je voulais les remercier parce qu'en fait, c'est tous ces gens-là qui donnent plus d'énergie souvent que leur temps de travail normal. Et parce que c'est de l'énergie militante et qui croient très fort en ça. Et voilà, je voulais finir en les remerciant.
Bien, merci beaucoup pour toutes tes réponses.
Merci beaucoup à Impact de raconter tout ça et de raconter cette aventure, parce que c'est ça qui permet de pouvoir peut-être inspirer d'autres systèmes ailleurs qui refabriqueront des choses à leur façon. Merci beaucoup pour le témoignage.
Pour compléter les paroles de Nicolas Orgelet, si vous souhaitez en savoir plus sur la justice alimentaire et la sécurité sociale de l'alimentation, je vous conseille d'écouter l'épisode de La main à la pâte. Construire une démocratie alimentaire. C'était La main à la pâte, un cycle d'émissions proposé par les réseaux d'Impact Centre et Impact 37. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.